Cachet oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, j'ai fait le tour de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en continuant les deux statuts de maîtrise des dents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ces nouveaux numéros de Paroles aux auditeurs, un magazine d'échange citoyen. À chaque rentrée scolaire en RDC, les parents font face à plusieurs exigences des établissements publics et privés, notamment sur les frais de réinscription ou confirmation, les fournitures scolaires, les frais de motivation et autres frais imposés par les écoles. Et pourtant, la loi cadre de l'enseignement réglemente les modalités de paiement de ces différents frais. À une semaine de la rentrée, quelle est la situation dans votre milieu ? Nous en débattons aujourd'hui. Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net si vous voulez participer à ces débats et appelez-nous au 081-890-3315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Noël Mokonde est à la technique, Faisa Julie Bongonda et Thiro Elamegi sont à la réalisation de ces programmes coordonnés et présentés par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63. Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Comme à la veille de chaque rentrée scolaire, les parents sont très préoccupés pour les frais à payer à l'école. Alors nous allons recueillir les points de vue des uns et des autres et aussi nous faire une idée sur la situation dans chacun des milieux où vous êtes. Jean, vous êtes à Kirumba, au Nord Kivu, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi qui nous écoutent maintenant. Moi je suis à Kirumba, territoire de Libéraux. Et je me donne mon point de vue pour éviter quand même que je discute et que je permette que je présente une condoléance et puis la tristesse à toute la famille de FRDC et aussi à tous les civils, mes collègues de la province de Kivu, nous qui venons de perdre de nouveau un vaillant combattant des forces armées, l'homme qui a donné l'image des patriotes de ce pays, le général Bahouma, juste après la perte du commandant Mamadou, et nous restons dans la douleur et dans la consternation. Nous ne savons par quel mot présenter vraiment nos pleurs.
Oui, allez-y pour la thématique, votre point de vue.
Alors, dans notre coin ici, comme ailleurs dans les pays, les parents pleurent beaucoup. Surtout la question de la gratuité de l'enseignement qui n'a jamais été, qui ne reste que des rêves, qui reste simplement rêves, paroles. Les parents, les prix de la guerre, qui ne savent pas comment payer le frais, à ce moment-là, ce qu'on voudrait voir, sauf que là, le gouvernement de la République démocratique du Congo peut-être matérialiser la gratuité de l'enseignement pour tenter de soulager les nombreux parents de ce coin, notamment aussi du territoire de Libéraux, où les FDLR et les autres groupes armés font toujours les défilés et où la pauvreté est visible. Les enseignants non payés, les enseignants appelé toujours une nouvelle visite depuis plus de 20 ans visible dans des écoles. Et moi-même qui suis enseignant dans une école de ce coin, le salaire des enseignants a été volé il y a près de 8 ans maintenant par des bandits. Et les enseignants appellent toujours Caritas à payer, sinon ils risquent de ne pas reprendre la craie dès la rentrée de cette année 2014-2015.
Merci beaucoup Jean, parce que vous exprimez quelques inquiétudes comme l'ont fait certains observateurs par rapport à cette difficulté de pouvoir payer des frais qui sont multiples et des frais qui ne sont même pas repris par l'arrêté ministériel fixant donc les modalités de ces paiements. Merci beaucoup Jean d'avoir appelé des Kirumba. Alphonse, vous êtes à Arou, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Aujourd'hui, je suis en direct du complexe scolaire au Seigneur Dimbokolo, une école privée, mais également et curieusement une première école à pouvoir réaliser pour la première fois aussi un 100% de réussite. Alors, cette dite école est conduite par monsieur Alphonse.
Oui, allez.
Qui vous parle maintenant.
Oui, allez-y directement, oui. Alphonse.
Voilà. Par rapport à la thématique du jour hier, une semaine avant la rentrée de classe, bien que la clé de répartition qui vient du ministère de l'EPST soit présentée aux écoles, mais sur le terrain, la situation est tout autre hier. Alors, chaque école de d'ici, si c'est frais d'inscription de sa façon, et cela pour plusieurs raisons notamment. Par exemple, à part la clé de répartition, on ajoute les frais de construction des infrastructures scolaires. On ajoute aussi les offrandes obligatoires, par exemple, pour certaines écoles conventionnées. Il y a les frais de carburant ou des crédits de communication pour certaines autorités hiérarchiques de l'EPST, voire même leurs frais de restauration, alors que des fois, ils ont les frais d'émission. Donc, ça, vous plaît aussi les frais de différents rapports de... les différents rapports scolaires et certaines contributions à l'ESSER, par exemple, des planches pour la fabrication des pupitres à l'école, etc. Alors, en faisant la somme de toutes ces charges, on peut obtenir un montant qui va aux alentours de 20 $, ça c'est dans notre milieu à Indocolo et Pétérique.
Oui, Alphonse, vous avez dit, Alphonse, s'il vous plaît, vous venez de nous signaler que vous êtes responsable d'une école privée à Arou, n'est-ce pas? Alors, est-ce que au niveau de votre école, vous respectez la clé de répartition telle qu'elle est définie dans les directives du ministère de l'enseignement primaire et secondaire?
Tout à fait hier. Alors, c'est nous qui sommes la seule école, d'ailleurs, qui n'a pas assez de dépenses par rapport aux écoles conventionnées et écoles officielles. Alors, hier,
vous avez parlé de frais,
par exemple, plus ou moins 10 $ pour les inscriptions. Alors, tout cela, ça revient, vous voyez, sur les parents. Et ça peut décourager certains parents qui peuvent aboutir à une dépense.
Qui ont même difficile à envoyer les enfants à l'école.
Quand on voit la situation économique, par exemple, de nos parents qui vivent essentiellement des activités agro-pastorales, comme par exemple là où nous sommes, trouver 20 $ pour une famille, par exemple, de 5 à 10 affaires, c'est vraiment une mince affaire parce que pendant cette période, si les produits agro-pastoraux connaissent une baisse sensible de prix sur les marchés et les fournisseurs scolaires sont à la hausse. Donc, j'ai pour vous rendre l'antenne, je voulais dire que pour soulager les parents, il faudrait que le gouvernement congolais assume ses responsabilités en matière de la gratuité.
Voilà, merci beaucoup Alphonse d'avoir appelé à Roux. Vous revenez également sur cette question autour de la gratuité de l'enseignement. Où en est-on? C'est vrai, lors de la toute dernière interview que le ministre Makère Mwangu avait accordé à la chaîne digitale Congo, je crois que nous nous souvenons en 2009-2010, lorsqu'il a évoqué les arrêtés fixant donc les modalités de paiement de ces frais, je crois qu'il avait promis qu'au sortir de la loi cadre d'enseignement qui pourrait fixer donc les concepts de la gratuité, je crois qu'on aura enregistré quelques avancées. Comme il est lui-même notre invité, je crois qu'il éclairera la lanterne des uns et des autres par rapport à cette question. Merci beaucoup, Alphonse, d'avoir appelé de Arou. Toto Kani, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, JM.
Nous vous accordons la parole. Quel est votre point de vue?
Je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Mon point de vue, c'est que la rentrée scolaire est bien proche et vous avez été plus précis la semaine prochaine. Je souhaite qu'elle ait lieu dans les meilleures conditions sécuritaires, surtout dans la partie orientale de notre pays, encore en proie aux actions sporadiques des forces négatives. Du côté des parents de Kinshasa, d'où j'appelle, considérant leur revenu d'une manière générale, je ne peux m'empêcher de constater que la partie n'est pas facile. Il se regarde au nombre d'enfants par famille quand on sait que la bourse n'est pas toujours à la hauteur pour effectuer des achats de fournitures scolaires. J'ai suivi il y a peu, par la voie des ondes, les enseignants réclamant les réajustements de leur traitement, ce qui est du reste de leurs droits. Mais je me pose souvent la question de savoir pourquoi cela n'arrive qu'à la veille des rentrées scolaires, alors qu'on a toute une année pour le faire. Alors, je formule ici le vœu de voir le gouvernement répondre à la promesse faite aux parents de Kinshasa et du Katanga, qui payent encore le lourd tribut de la participation des parents à la paye des enseignants, car l'expérience, vous savez, dans d'autres provinces, a été un franc succès. Sinon, il y aurait risque d'établir le principe de deux poids, deux mesures. Alors, je souhaite une bonne rentrée de classe aux élèves et enseignants, tout en invitant les parents à ne garder aucun enfant sur les filles à la maison, car ils sont le fer de lance de l'épanouissement de notre pays dans les années à venir.
Merci beaucoup, Toto Kali. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Radio Kati, un partenariat entre la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Kapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ce magazine d'échange citoyen. Je l'ai dit tantôt, à chaque rentrée scolaire en RDC, les parents font face à plusieurs exigences des établissements publics et privés, notamment sur les frais de réinscription ou confirmation, les fournitures scolaires, les frais de motivation et autres frais imposés par les écoles. Et pourtant, les lois, donc en fait, l'arrêté ministériel définit ou fixe encore les modalités de paiement de ces frais. Alors, à une semaine de la rentrée, quel est le niveau de l'application de cet arrêté? Nous avons notre invité en ligne, M. Makher Mwango, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Bonjour, son éminence. Pardon, monsieur le ministre, excusez-moi.
Bonjour, cher Amusier, merci. Bonjour. Merci vraiment de me donner l'occasion de participer à votre... émission Parole aux auditeurs.
Voilà, alors on aimerait un peu nous faire une idée sur les niveaux qu'atteint l'application aujourd'hui de l'arrêté fixant les frais scolaires.
Oui, merci beaucoup, cher ami. J'ai toujours dit, en ce qui concerne la fixation des frais scolaires, nous avons décentralisé les frais. Au niveau central, nous donnons les canevas. Nous disons, voilà comment, au niveau de chaque école, on doit tenir le budget, parce que chaque école, au moins, doit avoir un budget. Si au niveau national, on fait tout pour qu'on prépare un budget, il faudrait qu'aussi au niveau de l'école, que le chef d'établissement, entouré de son comité de gestion, établisse aussi un budget qu'il doit présenter auprès de, dans une assemblée générale auprès des parents qui discutent et qui lèvent une option. Ça, c'est très important. Donc, l'assemblée générale des parents d'élèves doit constituer aussi, mais comme le Parlement de la République démocratique du Congo, le Parlement dans la matière, dans le domaine de la fixation de frais scolaires. Donc, pour le moment, nous avons donné les canevas et nous avons demandé aux différents gouverneurs de province de prendre des arrêtés fixant les frais de frais scolaires au niveau qui doivent être suivis maintenant au niveau de chaque école. Nous sommes en train de suivre, certaines provinces l'ont déjà fait, d'autres ne l'ont pas encore fait. Nous demandons à toutes les commissions provinciales et les PSP qui se réunissent pour préparer les éléments techniques à soumettre au gouverneur de province, de les faire rapidement pour qu'on n'ait pas de problème avant la rentrée scolaire.
Alors, lorsque vous avez participé à une interview sur Digital Congo en 2010, vous avez en tout cas la préoccupation relative à l'application du principe de la gratuité de l'enseignement qui pourrait être quand même une des solutions à tous ces problèmes, à toutes ces difficultés. Vous avez répondu que nous devons tous nous mettre à l'attente de la mise en œuvre ou de la mise sous pied d'une loi pouvant définir les concepts de la gratuité. Aujourd'hui, nous y sommes. Alors, est-ce qu'on peut penser que demain, il y aura des avancées très significatives?
Oui, certainement, il y aura des avancées. Maintenant que le président de la République a promulgué depuis le 11 février la loi cadre sur l'enseignement national, nous avons une année pour les mesures d'application. Et là, nous avons déjà déposé, le ministère de l'EPCA a déjà déposé au niveau du gouvernement tout un ensemble de mesures réglementaires qui accompagnent la mise en œuvre de cette loi. Je crois que prochainement, dans les prochains conseils des ministres, certainement que ces différentes mesures d'application pourront être adoptées par le gouvernement. Et voilà, nous allons entrer maintenant dans la phase d'exécution de la loi cadre. De toute façon, la gratuité de l'enseignement va dans le sens de ce qui est prévu au niveau de la Constitution, des instructions que nous avons reçues du président de la République et même de la définition que nous avions déjà donnée. La gratuité concerne beaucoup plus les frais scolaires, les frais que les parents payent pour assurer la scolarisation de leurs enfants. Mais en ce qui concerne l'uniforme, en ce qui concerne les fournitures, ça, quoi que ça, c'est, et les soins de santé, ça, c'est laissé à la charge des parents.
À la charge des parents. Alors, c'est vrai, parce que vous l'avez dit, la fixation des frais scolaires a été décentralisée. Aujourd'hui, nous remarquons quand même une certaine fixation à asymétrie variable, donc à géométrie variable, ce qui fait qu'aujourd'hui, les parents ne savent plus à quel ça s'est voué. Nous allons prendre les cas, par exemple, des écoles conventionnées catholiques, où certaines écoles demandent même des frais pour l'appui à l'enseignement.
Appris à l'enseignement. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, la fixation des frais vraiment est décentralisée et les parents savent à quelle porte il faut frapper. On leur a donné l'occasion. Donc, j'ai reçu, je ne vais pas citer les noms, j'ai reçu quelques parents qui m'ont dit non, au niveau de leur école, il n'y a jamais eu d'assemblée générale, c'est une école privée. Il n'y a jamais eu d'assemblée générale, les promoteurs fixent des frais comme ils l'entendent. J'ai dit, mais vous avez l'occasion de poser votre volonté parce que la réglementation vous a donné l'occasion de vous retrouver avec les autres parents dans une assemblée générale. Vous désignez votre responsable, celui qui doit vous représenter au niveau du comité de gestion de l'école, et vous discutez avec eux sur les budgets de l'école et vous fixez les frais que les parents doivent payer. Donc, ils n'ont pas, ils ont quand même leur délégué au niveau du comité de gestion. Qu'ils voient ces délégués, qu'ils discutent avec eux. Si à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, parce que nous avons demandé qu'au temps, ils tiennent leur assemblée générale, qu'il y ait toujours un représentant de l'État, ne serait-ce que pour le départager, dans la mesure du possible. Donc, il faut que ces assemblées générales se tiennent. Malheureusement, nous trouvons que cela s'est fait avant la rentrée scolaire, ce qui n'est pas bon. Parce que nous sortons les instructions en ce qui concerne la fixation des frais scolaires avant la clôture de l'année scolaire. Donc, c'est intéressant qu'avant que les enfants, les élèves n'aillent à vacances, chaque élève ait son billet de vacances. Dans les billets de vacances, il y ait ce que l'enfant doit amener pour la rentrée scolaire. Et à ce niveau-là, les parents ont 2 mois pour se préparer. Malheureusement, ces assemblées générales ne se tiennent presque pas. Nous avons demandé à ce que, dès la rentrée, déjà au mois d'octobre, je crois, il y aura des assemblées générales un peu partout, pour voir quels sont ceux-là qui peuvent les représenter valablement au niveau du comité de gestion et que ces parents qui sont dans les comités de gestion défendent réellement et fassent le suivi au nom et en lieu et place des autres parents qui ont leurs enfants dans cette école. Je crois que c'est important que tous les parents prennent leurs responsabilités en main, qu'ils aillent, qu'ils insistent pour qu'il y ait des assemblées générales et que toutes les matières soient débattues à ce niveau-là. Non seulement les matières financières, mais aussi les suivis pédagogiques. Ils voient quels sont les enseignants qui vont donner cours et qu'est-ce qui se passe avec ces enseignants. Je crois que c'est quand même très important.
Oui, alors revenons un peu autour des écoles conventionnées, qu'elles soient catholiques, protestantes ou encore kimbanguistes. Aujourd'hui, c'est vrai, ces écoles fonctionnent, en tout cas en matière de fixation de frais avec les décrets en tout cas de la hiérarchie de l'Église.
Non, je crois que nous avons une convention. Nous avons une convention qui gère le fonctionnement, la gestion des écoles. Les représentants de l'Église, comme on les appelle, ils ont un certain pouvoir dans certains domaines. Mais ils ne peuvent pas faire sans le concours, sans consulter quand même les pouvoirs organisateurs qui est l'État. Donc c'est pourquoi j'ai dit, chaque fois quand il y a ce genre de problème, il faut que les assemblées, les parents soient impliqués et les représentants de l'État doivent aussi être là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans le sens de rencontrer les préoccupations des parents.
081-890-6315 pour votre intervention en direct. Franklin, vous êtes à Bukavu. Michel Amatadi, on va vous accorder la parole. C'est parce que Radio Capine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits fracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Franklin, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour, Gilles, bonjour à son excellence, monsieur le ministre qui est notre invité, bonjour à tous les auditeurs, et bon début de semaine à tous.
Vous avez la parole, Franklin. Quelle est la situation dans votre milieu?
Oui, la situation n'est pas en fait différente que partout sur l'Assemblée du territoire national, parce que même ici à Bukavu, les écoles, que ce soit conventionnées ou privées, certaines écoles exigent même aux parents d'acheter les uniformes sur les lieux d'école. Donc vous venez inscrire votre enfant, on vous exige que non, ici nous avons les écoles, nous avons les uniformes, et les enfants, votre enfant doit payer l'uniforme à partir d'ici. Et on exige même deux pièces ou trois pièces à partir de l'école, il faut voir les prix sur lesquels on achète ces uniformes-là. À côté de ça, il y a aussi l'exigence faite aux parents de tapirer la première tranche des frais à payer. On exige à payer ces tranches-là avant même les débits de cours. En fait, il y a plusieurs frais qui sont demandés, les frais de l'État, les frais, je ne sais pas quel type de frais, les frais qu'on n'explique même pas aux parents quel est le rôle de ces frais-là. Mais moi, je dis ceci. Cette question qui est au cœur de notre débat aujourd'hui, principalement à une absence de volonté politique d'une part, et d'autre part à la complicité. Volonté politique, pourquoi? Parce que pour le moment ici, on ne va pas dire que non, ce sont les enfants des pauvres, parce que tout le monde est concerné, que ce soit le ministre, que ce soit le gouverneur, tout le monde sait que normalement, ce sont les frais qui sont demandés, ce sont là les frais qui sont demandés au niveau des écoles. Mais personne ne prendre la décision pour stopper cette situation. Parce que le gouverneur, au niveau des provinces, même au niveau de Kinshasa, les ministres, ne se limitent qu'à prendre des décisions. Mais ils sont quand même soumis au paiement de ces frais-là. Et malheureusement, les enfants dans les écoles-là, elles ont ce point-là. Donc, on ne va pas nous dire que c'est une situation qui est ignorée pour attendre que les parents eux-mêmes viennent dénoncer. Complicité, pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la plupart de ces décideurs-là et la plupart de ces écoles-là, ce sont des décideurs qui sont en même temps, ils prennent les décisions, mais en même temps, ils sont aussi promoteurs de ces écoles-là qui se cachent. Et donc, ils ne peuvent pas prendre la décision de mettre fin à cette situation parce qu'ils vont considérer que non, ce sont les robinets qui eux-mêmes vont couper. Moi, je pense que la première solution à cette question, c'est la volonté politique. Parce que tout le monde est considéré, est engagé, tout le monde est concerné. Que ce soit le ministre, que ce soit le gouverneur, nous sommes tous concernés et tout le monde sait que non, c'est ça la situation. On est à l'école. Et le gouverneur, le ministre, savent que non, la situation à l'école dans laquelle les enfants étudient est telle qu'on le présente. Mais personne n'ose prendre la décision. Moi, je pense que s'il y a la volonté politique, je pense que tout peut se résoudre. Parce que sauf que les parents dénoncent, sauf que les parents dénoncent, et tout le monde dénonce. Mais qu'est-ce qui suit après la dénonciation? Il n'y a aucune décision qui est prise. Donc, moi, je pense que la situation est connue, et c'est que le ministère de l'enseignement supérieur, de l'enseignement primaire, en collaboration avec les pouvoirs en province, prennent des décisions parce que la situation est tellement connue par tout le monde.
Voilà, donc, si je comprends bien, Franklin, nous allons essayer un peu d'interpréter votre intervention. Nul n'est au-dessus de la loi, parce que, en fait, il y a des directives du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel quant à ce. Je crois que les promoteurs d'école, que ce soit au niveau des conventionnés ou encore des privés, doivent normalement respecter ces directives.
Oui, c'est vrai. Voilà, les directives, oui. Directive, c'est bien de les prendre, bien le suivi.
Voilà.
Il ne suffit pas de prendre les décisions.
Voilà.
Nous avons de bonnes lois, nous l'avons toujours dit dans cette émission.
Tout à fait, Franklin.
Nous avons de bonnes lois, mais l'application, faire appliquer la loi, mais je ne suis pas l'application, je ne suis pas, on ne peut pas se limiter à prendre des arrêtés et pas suivre, ne pas faire le suivi de l'application au niveau des écoles.
Voilà, il y a des inspecteurs qui sont là au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus. Est-ce que les rapports faits par ces inspecteurs font état pratiquement de toutes ces dénonciations faites par les parents? Voilà, on va revenir à d'autres qui auront peut-être le même point de vue. Mais Michel, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gilles.
Est-ce que vous partagez l'avis selon lequel, l'avis de Franklin, bien entendu, qui parle de la volonté politique, ou si cela n'est pas le cas, donc il s'agit là d'une certaine complicité pour ne pas, en fait, envoyer les enfants tous à l'école?
Oui, je soutiens le précédent auditeur. Moi, je ne condamne pas le ministre étant qu'individu, mais je condamne le ministre étant qu'organe qui devait prendre des décisions. Parce que, M. Gir, n'oubliez pas que cette situation, c'est la cause de la pauvreté des parents. ce système a intervenu à l'époque de Mobutu. Vous savez, l'Église catholique n'a pas voulu que l'année scolaire soit dite année blanche, vu la menace des étudiants qui voulaient aller en grève. Lorsque Mosé est arrivé, moi je crois qu'il a donné les mots de passe. Et nous sommes venus libérer ces peuples du système de Mobutu. Or, c'est dans ce système de Mobutisme que l'on voyait, au lieu que l'État paye ses enseignants, ce sont les parents qui se substituent au rôle de l'État. Vous savez, ce système a aussi intervenu en Haïti, après les catastrophes naturelles qui avaient frappé ces pays. Il y a eu une crise, et cette crise a fait que les parents puissent prendre les devants en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Mais vous remarquez avec moi, à l'époque, les présidents qui passaient, les présidents haïtiens, lorsqu'ils passaient à la télé, vous sentez la pauvreté. Nous ne sommes pas dans la crise, mais ce que nous avons, c'est l'injustice sociale. Excusez-moi, monsieur le journaliste. Lorsque nous sommes dans un pays où on a des aides, dans les entreprises où il y a des mandataires publics qui sont payés 15 000 dollars, et à un enseignant, on va donner 60-70 dollars, les frais qu'ils utilisent même pour les carburants de leur jupe. Mais ce qui me frappe ici, c'est la lourdeur de l'organe qui devait prendre des lois. Lorsque nous sommes dans nos écoles, vous savez, la réinscription, c'était une méthode qui s'est passée dans des universités. Mais aujourd'hui, nous le voyons même dans des écoles maternelles. Et je me rappelle, nous, à l'époque, lorsque nous étions à l'université, on payait 10 dollars pour la réinscription. Mais maintenant, vous allez dans des écoles maternelles, on vous demande 30 dollars. Et à part ça, chaque école vend les uniformes de sa propre manière. Et aujourd'hui, il y a une complicité avec les bureaux du comité des parents qui sont dans les écoles. Vous savez que les bureaux de ces comités, parfois, sont mieux payés que les enseignants qui donnent cours dans ces écoles. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Les enseignants qui donnent les matières souffrent. Mais les bureaux, c'est pourquoi lorsqu'ils sont là, ils n'aiment pas quitter. Ils n'aiment.
Oui, voilà, Michel, je crois que je pourrais aussi t'appeler là-dessus, oui. Parce que nous avons quand même une petite expérience.
Je voulais conclure, hein.
Oui, nous avons quand même une petite expérience par rapport au comité des parents, Michel. Je crois que la clé de répartition du ministère est très claire quant aux frais scolaires fixés par l'État. Je crois que il y a juste quelque chose comme moins d'un pour cent même qui va dans les
justement du comité des parents. J'ai toujours eu les soucis de notre ministre. J'ai toujours eu les soucis. Le problème pour notre ministre, il n'a pas des gens qui peuvent l'accompagner. C'est ça, parce que tout se passe. Il est dans son bureau, il y a des gens qui doivent parler au nom du ministre.
Si je comprends bien, Michel, vous rejoignez.
Il y a des désordres dans nos écoles.
Voilà, vous
aujourd'hui, Manoché, attends une minute, Manoché, viens. Viens,
voilà.
C'est mon neveu.
Il y a pas de pays.
Attendez. Bosso m'a dit oreille à examen, à combien?
Allô, Michel? Voilà, Michel? Michel? Voilà, Michel a appelé son fils Mardechet pour qu'il puisse témoigner à combien coûtaient les uniformes pratiquement dans cette école. Bon, Michel, malheureusement, il n'est plus en ligne. On va prendre Elodie qui est à Guémena. Elodie, bonjour.
Bonjour, j'ai un bon début de semaine.
Voilà, vous avez la parole,
bonjour,
Elodie.
Bonjour aussi à son excellence, le ministre.
Elodie, vous avez la parole.
Ok, par rapport à la thématique, Claire a pris une partie de ce que je voulais dire. Il a soulevé le problème de l'achat des uniformes. Je voulais aussi déplorer ces phénomènes-là. Vous savez, les tissus des uniformes à la cité ou au marché, ça a un autre prix. Et quand on les coupe, ça ne fait pas voilà le prix qu'on va dans les écoles. Et je voulais poser sur ça la question à son excellence, le ministre, de connaître sur ces uniformes, parce qu'ils ont toujours déploré le fait des achats de l'uniforme n'est pas obligatoire. Par contre, les promoteurs des écoles obligent ça, au lieu de faire en sorte que ça soit facultatif. Je voudrais donner un exemple sur ça. Je vois le modèle que l'école a conçu, je prends, moi aussi je fais coudre ça à la cité. Le même modèle, le même tissu. Mais quand l'enfant porte, il arrive à l'école, on lui chasse. On dit qu'il n'a pas acheté ça à l'école. Mais ça ne différencie pas de ce que ses collègues ont porté. Tout simplement, moi, je l'ai fait à la cité.
parce que vous n'avez pas payé.
C'est la raison pour laquelle on peut refuser l'inscription d'un enfant à l'école où l'enfant n'a pas droit à l'étude ou ce qui n'a pas acheté l'uniforme de l'école. Ça, c'est un autre problème.
Merci beaucoup, Elodie. Parce que
en dehors de ça, je voulais soulever aussi le problème des frais de confirmation. J'ai un enfant qui a étudié en première primaire dans une école, il passe en deuxième. L'autre a fini l'école maternelle dans cette école, il passe en première primaire. On me demande un 10$, un 20$ pour les frais de confirmation. Et pourtant, l'enfant est passé en classe dans la même école. Tout ça là, l'État a toujours déploré. Mais les mesures de suivi, comme a dit Franklin et Michel, c'est bien de faire des arrêtés, de prendre les mesures de suivi ne sont pas faites. À part ça, ici, comme nous sommes en train de passer, il y a l'épidémie de Ebola qui est déclarée dans l'est de ça fait craindre aussi d'autres parents pour envoyer les enfants à l'école. Ils craignent qu'ils seront contaminés. Même si l'épidémie de Ebola concerne le ministère de la Santé, mais le ministère aussi de l'FSP va prendre aussi des dispositions ou instruire aussi les préfets, les enseignants, comment faire pour protéger aussi les enfants.
Merci voilà beaucoup. Merci beaucoup, Elodie, parce qu'il s'agit là d'une préoccupation directe. Monsieur le ministre, vous avez suivi les interventions des uns et des autres. D'abord, une réaction.
Merci beaucoup, merci. Vraiment, je réponds à ce qu'il s'agit de Franklin, de notre ami Michel qui ne manque pas d'opportunité pour intervenir et d'Elodie à Kemena. Bon, la question est presque la même. Moi, je crois vraiment, je demande à Franklin, je demande à Michel, je demande à Elodie et à d'autres. Les parents doivent être nos complices. Quand ils demandent, non, il y a une complicité. Non, la meilleure complicité, c'est ce que nous devons avoir avec eux. La démocratie, c'est la participation. Vous ne pouvez pas avoir un texte. Les textes, ils ont les textes, ils ont la réglementation en ce qui concerne les inscriptions. Et puis, un chef d'établissement leur dit, vous devez faire ceci. Et ils le font. C'est pas possible. Pourquoi ils ne peuvent pas nous aider à appliquer? Les premières personnes qui peuvent nous aider à appliquer les différentes mesures, ce sont les parents. Nous disons ceci. Quand vous avez un problème comme ça, vous vous réunissez avec les autres parents pour dire qu'est-ce qui va se passer. Je vois, ça se passe dans certaines écoles. C'est très, très bien. Pourquoi? Ça doit se faire partout. Et une fois que vous constatez que vous n'arrivez pas à vous entendre avec le chef d'établissement. Mais bon, vous allez, nous, avec le comité de parents, nous avons demandé à ce qu'il y ait des assemblées générales. Généralement, c'est au mois d'octobre. Alors, vous changez le comité de parents parce que ces gens-là ne vous représentent pas. C'est ça le problème. Donc, le meilleur complice pour nous du ministère, c'est ça. Et la meilleure personne qui doit faire le suivi, c'est ceux qui sont beaucoup plus concernés, c'est-à-dire les parents. Et je demande, j'insiste vraiment pour que ces gens qui s'agissent des parents, qui nous aident à faire appliquer la réglementation telle que prévue par chaque fois quand, avant la clôture de l'année scolaire. Lui-même a dit, j'aimerais, excusez-moi, je voudrais quand même revenir sur une question essentielle que Elodie a soulevé en ce qui concerne Ebola.
Oui.
Ebola, c'est vrai que ça concerne le ministère de la Santé, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'elle pense. Non, ça concerne aussi le ministère de l'EPST. J'aimerais vraiment profiter, ça serait de profiter de votre tribune pour dire, voilà ce que la décision que le gouvernement a prise en ce qui concerne Ebola dans la zone comme c'est contenu à Djerba. Là, la rentrée scolaire va avoir lieu une semaine après. Parce que nous avons pris disposition avec le ministère de la Santé pour que et les enseignants et les chefs d'établissement puissent avoir ne serait-ce qu'une semaine de formation avant qu'on commence, on demande aux parents d'envoyer leurs enfants dans nos écoles. Voilà, donc c'est une décision qui a été prise par le gouvernement. J'aimerais utiliser vraiment votre
oui,
pour
oui.
que j'informe à nos amis, les parents, les enseignants, les Djerba, que c'est ça la décision qui a été prise du côté de Boende, que voilà, là, la rentrée scolaire dans cette zone qui a été bien délimitée par le ministère de la Santé, la rentrée scolaire va avoir lieu une semaine après, parce qu'il y aura des séances de formation qu'on va organiser, que le ministère de la Santé va organiser en faveur des enseignants, en faveur des chefs d'établissement, des animateurs, ainsi que de gestionnaires de cette zone-là. Voilà, c'est la mesure qui a été prise. Mais maintenant, pour l'ensemble du pays, nous demandons aux chefs d'établissement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants aient l'occasion régulièrement de laver les mains. Un geste simple, laver les mains régulièrement, qu'ils voient dans quelle mesure, avec un seau d'eau, avec
avec un petit gobelet. Comment permettre, avec des savons, comment permettre à ce que chaque, régulièrement, les enfants se lavent les mains dans toutes nos écoles? Je crois que ça va nous permettre de, d'indiquer quand même cette épidémie qui s'est, déclarée à Dieppe. Voilà. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà. Alors, une question encore de curiosité, monsieur le ministre. En ce moment où se tient la campagne de sensibilisation dénommée garçons et filles tous à l'école. Alors, déjà avec cette difficulté, disons qu'elle traverse certains parents, quant à la fixation des frais qui semble un peu être flou encore à géométrie variable dans plusieurs écoles. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que cela risque de déranger un peu cette campagne ou de ne pas permettre à la campagne d'avoir les résultats?
La campagne, elle est nationale. La campagne, elle est nationale. Et nous l'avons toujours dit, l'inscription dans les problèmes de frais scolaires ne doit pas constituer un blocage en ce qui concerne l'entrée des enfants à l'école. Donc, il faut amener les enfants à l'école. Il faut aussi dire, cher ami, qu'avoir un enfant, c'est un problème de l'État, mais aussi c'est un problème pour le parent. Il ne faut pas que les gens pensent que vraiment l'école, c'est vraiment une exclusivité de l'État. Non, nous partageons les responsabilités. L'État a ses responsabilités, les parents aussi ont les siennes. Pour amener l'enfant à l'école, ça a un coût. Nous supportons les coûts, nous payons les enseignants. Le gouvernement a pris la décision à partir du mois d'octobre d'accroître notre enveloppe mensuelle pour la paie des enseignants de 5 milliards. De tout faire pour avoir une mutuelle de santé à Kémena et à Kisangani avant d'aller dans d'autres provinces. Ça, c'est des mesures qui sont prises par le gouvernement pour aller dans le sens de faciliter, d'aider nos amis enseignants à être disponibles dans les salles de classe. Ce sont les mesures qui sont prises par le gouvernement, qui sont approuvées par les enseignants. Mais les parents ont aussi leurs responsabilités. Il ne faut pas qu'ils pensent, et c'est ce que nous décrions souvent, qu'on va abandonner l'enfant à l'école. Non. Et l'enfant ne doit pas constituer un objet un objet financier. Donc on va là-bas, marchandage financier, donc voilà, vous donnez, il faut payer. Non. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de problèmes autour de l'enfant. Parents et nous devons nous mettre ensemble pour que nous arrivions à résoudre ce problème, pour améliorer la qualité de notre enseignement, améliorer l'accès, et voir dans quelle mesure ces enfants doivent avoir une formation de qualité qui va permettre à ce qu'eux-mêmes, en tant que parents, soient contents. L'enfant lui-même est content parce qu'il a les compétences voulues. Et la nation est contente parce qu'elle va bénéficier des compétences de cet élève qui est passé par les écoles. Donc c'est un problème qui nous concerne, nous tous. C'est un credo que nous lançons régulièrement, que le gouvernement lance régulièrement. Nous aimerions vraiment que nos amis parents aussi s'impliquent. Ce n'est pas normal que nous avons un enfant dans une école et nous ne sommes pas en mesure d'assister à l'Assemblée Générale pour discuter avec les chefs d'établissement quels sont les frais que nous devons payer. Et une fois que nous constatons que les responsables que nous avons délégués, nous avons dit au niveau de chaque école, nous avons un comité et un conseil de gestion. Ce conseil de gestion est composé de responsables du comité de parents et deux autres parents qui doivent aider les chefs d'établissement à gérer l'école. Mais si on constate que ces gens-là ne défendent pas nos intérêts, comme nous avons prévu les élections au lieu des assemblées générales, l'élection des membres du comité de parents une fois par an, mais au mois d'octobre, quand ils vont se réunir, ils prennent la décision. Ils discutent de tout ce qui se passe au niveau de l'école. Donc c'est comme ça, c'est aussi la participation. Nous devons participer pour aider l'école à aller de l'avant.
Alors, monsieur le ministre, pour reprendre vos propres mots, vous avez dit l'État supporte quand même le coût de l'enseignement aujourd'hui de plusieurs façons, notamment par l'appui de certaines écoles au travers des frais de fonctionnement. Mais généralement, ces frais de fonctionnement ne représentent pratiquement rien. Pour permettre à ce que l'école fonctionne.
Je ne peux pas dire rien.
Oui.
Chaque école primaire, je ne sais pas si les parents le savent, chaque école primaire qui est payée par les trésors publics reçoit 45 000 francs congolais. Avec 45 000 francs congolais, vous pensez que c'est rien, que vous ne pouvez pas acheter une boîte de crêpes. Chaque école aujourd'hui, à la rentrée ici, on va distribuer pour 40 millions de dollars des manuels à travers toute la République. C'est rien ça. Nous, d'ici là, vous allez suivre une opération on va donner aux différentes écoles qui 300 dollars, plus de 10 000 dollars, 1 million de francs congolais, 300 000 francs congolais pour le fonctionnement de l'école. Vraiment, GR, vous pensez que c'est rien ça? Non. Le gouvernement fournit beaucoup d'efforts. Nous aimerions que, d'abord, que les parents le sachent. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne le savent pas, parce que souvent, quand on leur demande, ils ne sont pas au courant. Alors que c'est des frais qui arrivent régulièrement par mois. Et une fois qu'on paye, chaque école primaire reçoit des ressources pour permettre aux parents de mettre en œuvre la gratuité. Donc ce sont des choses réelles. Et nous donnons à chaque gestionnaire, je le dis souvent, je le répète aussi, qu'il s'agisse des responsables des écoles conventionnées au niveau de la sous-coordination ou au niveau de la coordination, écoles conventionnées catholiques, timbangues, musulmanes et autres, chaque mois, ils ont autour de 200 000 à 300 000 francs congolais. Chaque mois. Pour encadrer la paye. Vous pensez vraiment que c'est rien. Quand vous prenez toute l'enveloppe, je vous dis que notre enveloppe budgétaire, le gouvernement fait de, en une année, on est passé de presque 32, 34 milliards à presque 40 milliards de francs congolais par mois. Non, c'est vraiment des fonds énormes qui font qu'aujourd'hui l'éducation c'est vraiment une priorité. C'est pas pour rien qu'on construit à travers la République. On est autour de 300, 500 écoles qu'on est en train de construire à travers toute la République. Des infrastructures scolaires dans nos villages, un peu partout. Tout ça, c'est une volonté claire, exprimée claire du gouvernement pour dire l'éducation, c'est une priorité. Mais ça ne peut pas être une priorité pour le gouvernement et non une priorité pour les enseignants. Et ces efforts, vous avez suivi la revue conjointe que nous avons réorganisée il y a presque deux semaines, où la communauté internationale est en train d'apprécier les efforts du gouvernement. Quand la communauté internationale apprécie, elle compare. Elle compare ce qui se passe au Congo et ce qui se passe dans beaucoup de pays. Elle trouve que non, la manière dont les choses sont en train, que le gouvernement congolais, sous les leadership du président de la République, ce qui est en train de se faire au niveau de l'éducation, voilà, donc le Congo est sur la bonne voie. Il ne faut pas que les étrangers le disent et que nous-mêmes, qui sommes à côté, nous ne soyons pas en mesure de reconnaître quand même qu'aujourd'hui, les salaires des enseignants sont en train d'être améliorés petit à petit. C'est vrai, nous ne faisons pas la démagogie, nous ne disons pas que cela n'est pas correct, que le salaire est encore modique. Nous le reconnaissons, c'est pourquoi chaque année, le gouvernement fait un effort pour accroître ça. Je vous ai dit, au mois d'octobre, si cette enveloppe passe à 40 milliards. Et cette enveloppe, en 2007, je voulais vous dire, c'était autour de 5 milliards. En 2007, 5 milliards. Aujourd'hui, l'enveloppe des enseignants, 40 milliards. Donc, on a multiplié par 10 en moins d'une décennie, multiplié par 10 l'enveloppe en faveur des enseignants pour payer le plus d'enseignants qui ne s'est pas payé pendant des lustres.
Voilà, alors une question de curiosité avant de repasser de l'autre côté de Standard. Monsieur le ministre, le frais des motivations, 21 ans après, est-ce que au niveau du ministère, vous pensez déjà à sa suppression?
Je ne sais pas. Nous disons ceci. Les parents, même quand on dit non il y a quelques années, peut-être le pouvoir d'achat de la population était quand même bon. Et ça ne permettait pas, nous, les enfants, de savoir que les parents payaient les frais. C'est quand même important. Les frais scolaires, c'est une obligation. Même quand nous, on étudiait, les parents payaient les frais scolaires. Peut-être que nous ne s'en rendions pas compte. Les parents ne venaient pas se plaindre plus que nous pour dire que voilà, je souffre pour payer les frais parce que le pouvoir d'achat, les gens étaient quand même plus ou moins, ils avaient des revenus. Maintenant, avec les difficultés que nous avons accumulées pendant des années, les parents, c'est vrai, ont des difficultés pour payer ces frais scolaires. Mais on ne peut pas enlever les frais scolaires. Les frais scolaires existent. Et ces frais scolaires, nous le disons souvent aux gestionnaires, une école publique qui reçoit les frais scolaires, c'est une propriété de l'État. Et nous disons ceci, les frais, comme ce sont des frais de l'État, comment gérer ça au niveau de chaque école? Et nous, aucun rond quitte l'école vers une destination quelconque. Non. Nous disons que tout reste au niveau de l'école, que tout soit géré au niveau de l'école, en faveur du fonctionnement de l'école et pour résoudre certains problèmes des enseignants. Voilà, on a appelé ça comme on a appelé, mais non, moi je dis c'est des frais scolaires et ces frais scolaires sont payés et doivent être payés. Les frais scolaires seront toujours nécessaires, même dans des pays lointains. Quand on vous dit non, l'école est gratuite, il faut aller demander ceux qui ont des enfants en Belgique ou ailleurs, ils vont vous dire que c'est pas réellement. On vous dit que l'école est gratuite, mais il y a beaucoup de frais qui sont payés. Mais nous faisons un effort, nous disons c'est concernant les frais scolaires, ici on ne paye rien. Et cela nous a permis d'avoir un nombre assez important d'enfants dans nos écoles. beaucoup d'enfants. Le nombre d'enfants est parti de 8 et de 10 millions au niveau primaire. Aujourd'hui, nous sommes autour de 12 millions d'élèves au niveau primaire. Donc, c'est des grands efforts qui sont faits en ce qui concerne l'école primaire, qui sont en train d'être appréciés par la communauté internationale.
Alors, Maloba et Tamanono et Simon Tiloulou à Matadi. Maloba, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour aux paroles aux auditeurs. Bien sûr, nous avons toujours des contributions sur cette belle émission. Ma première question, moi, j'aimerais d'abord m'intéresser fort au ministre de l'Éducation. Est-ce que le ministère de l'Éducation ne peut pas renforcer les campagnes de sensibilisation aux médias locaux pour que les parents sachent correctement les bien fondés de l'éducation de leurs enfants? Ça, c'est ma première question. Encore, quel ministère de l'Éducation descend d'abord sur le terrain pour voir combien d'écoles qui sont implantées et il saura combien les enseignants qui œuvrent qui portent les souffrances. Parce que, monsieur Juer, vous allez voir que les enseignants ne sont pas bien payés. Vous allez voir que les enseignants ne mangent pas. Il arrive seulement en classe, comme il n'a pas mangé. Alors, il n'a pas le temps d'enseigner. Il a seulement le temps de narrer l'histoire qu'il a vécue. Alors, vous allez trouver que, sinon, si on peut continuer toujours dans cette façon, notre éducation sera foutue.
Voilà, merci beaucoup Maloba. Simon Tiloulou, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, bonjour, et bonjour aussi au ministre et l'invité.
Votre commentaire.
Je suis porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Je voulais seulement savoir, premièrement, est-ce que le ministre est membre du gouvernement? En étant membre du gouvernement, c'est-à-dire qu'il traite les problèmes de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel au niveau du gouvernement. Nous savons aussi les difficultés qu'il rencontre lorsqu'il pose tel ou tel autre problème. Mais ici, nous sommes dans une situation de la mort intellectuelle de la nation. Et il fallait dépister tout ce qui fait que la qualité puisse aujourd'hui être absente par rapport ailleurs. On ne peut pas parler de la qualité de l'enseignement sans pourtant passer par le créateur de la qualité. La qualité passe par son créateur. C'est pourquoi nous disons toujours, lui parle des frais scolaires, c'est bien beau, mais la motivation qui a commencé depuis 92 ne favorise pas le progrès de la qualité. Parce qu'un enfant qui obtenait 52, 53 à notre époque, à son époque également, vaut mieux que celui de prise en charge aujourd'hui des enseignants par les parents. Celui de prise en charge a beaucoup de vide en lui.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Simon. Je crois, désolé, on va pas continuer. Le temps, peut-être la réalisation va nous aider à retrouver Simon pour qu'il puisse poursuivre son intervention. Alors, on revient à vous, monsieur le ministre. C'est vrai, nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire. Quelles sont les attentes du ministère de l'EPSP pour cette année scolaire?
Oui, nous allons d'abord que la rentrée ait lieu sans problème. Nous avons suivi le communiqué de nos amis syndicalistes. La rentrée va avoir lieu et les débats, les échanges avec le monde syndical va continuer. Nous devons continuer parce que c'est une consultation permanente que nous réalisons avec eux. C'est ce qui nous permet d'avancer régulièrement sur l'amélioration des conditions quand même des enseignants. J'ai suivi votre ami Maloba Manono. Il a donné une bonne proposition qu'il fait pour renforcer les médias locaux. Je crois que c'est une bonne chose. On va voir. Mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il parle de descendre sur le terrain. Nous sommes régulièrement sur le terrain. Nous connaissons tous les problèmes qui se posent dans nos différentes écoles. C'est ce qui fait que nous prenons un certain nombre de mesures. Mais j'insiste, ces mesures peuvent rester lettre morte si ceux qui sont les premiers concernés ne suivent pas, ne nous aident pas. Donc la meilleure complicité, c'est avec les différentes mesures. Donc nous les sensibilisons sur les mesures que nous prenons et nous faisons tout pour qu'ils soient au courant et qu'ils nous permettent de faire exécuter ça dans nos différentes écoles. En ce qui concerne notre ami Tchiloulou, qui parle de la qualité, il ne faut pas être limitatif. C'est vrai que l'enseignant, nous le disons toujours, l'enseignant, c'est vraiment les pivots, le cœur même du système éducatif. Mais à cet enseignant, il ne faut pas non plus croire qu'il n'y a que le salaire. Nous faisons tout pour qu'il ait le salaire. Mais à côté du salaire, nous disons par exemple, quand on résout son problème de santé, c'est vraiment aider l'enseignant à améliorer quelque part d'une manière indirecte ses revenus. Hein, je crois que nos amis de Kinshasa, ils savent quand même que quand ils sont malades, les enseignants, quand ils sont malades, ils se font soigner sans problème. Donc, c'est une contribution au salaire qu'ils ont déjà, que nous reconnaissons modeste, parce que nous savons que personne ne peut, avec ce salaire, bénéficier de soins de qualité. Mais je ne pense pas que notre ami de Matadi veut, quelque part, dire qu'avant 92, il n'y avait pas de frais scolaires. Non. Les frais scolaires existaient toujours. En 92, peut-être que dans la répartition maintenant, ils ont essayé de réserver un quota assez, une quantité assez importante pour l'enseignant. Mais avant, les frais scolaires existaient. Mais nous disons que l'amélioration de la qualité passe par la fourniture des livres. On a étudié pendant longtemps sans utiliser les livres. Et nous avons même constaté que parfois nous organisions ce que nous appelons les tests nationaux de fin d'études primaires. On a constaté que parfois il y a certains élèves qui avaient des difficultés pour lire même les caractères d'imprimerie. Parce que les livres, l'élève n'avait jamais vu un manuel. Mais aujourd'hui, les manuels sont là. Nous demandons juste à nos amis enseignants d'utiliser ces manuels. L'amélioration de la qualité passe par la formation même des enseignants. Nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui un dispositif pour la formation continue des enseignants, pour lui donner les matériaux nécessaires pour que devant la salle, devant les élèves, qu'il donne le meilleur de lui-même. Ça passe aussi par sa motivation dans son statut. En tant qu'enseignant, il faut qu'il bénéficie d'un regard positif de la communauté. Et petit à petit, donc, comme nous sommes en train de le dire, le regard est là. Donc, nous sommes en train de voir que l'enseignant, c'est vraiment le pivot. Et là, je crois que personne ne peut le dire. Ce n'est pas nous qui pouvons dire que l'enseignant, ce n'est pas l'homme clé pour l'amélioration de la qualité de notre enseignement.
Alors, on va accorder juste une minute à l'honorable CDA, qui a toujours été fidèle auditeur de Parole aux auditeurs et qui était très intéressé par rapport au sujet, à la thématique du jour. Honorable, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution?
Oui, je commence d'abord par saluer le ministre, ainsi que tous les auditeurs de la radio Capi. Le thème d'aujourd'hui est vraiment important au moment où, parce que nous préparons la rentrée scolaire, j'ai une idée à donner au ministre, ainsi qu'une proposition aux auditeurs. Mais avant tout, je voudrais vous raconter une histoire. Il y a une équipe de parents qui sont passés par nous pour atteindre les ministres pour ce même problème. C'est-à-dire que le promoteur a fixé, et pendant qu'on débattait, ils sont venus pour dire que le promoteur ne voulait pas les écouter. Je leur ai dit, mais le ministère a organisé l'enseignement et il a fait de vous ses complices pour l'éducation de nos enfants. Ce qu'il faut faire, il faudra qu'à votre niveau, le comité puisse prendre ses responsabilités et chercher à dialoguer avec les promoteurs. Ils sont partis pour revenir quelques jours après en me disant, mais pendant qu'on négociait, d'autres parents ont commencé directement à payer les frais. Donc, quelque part aussi, la responsabilité de nous, parents, est vraiment engagée pour que les choses puissent aller normalement dans notre système éducatif. La complicité parents, l'État à travers le ministère, est vraiment importante et c'est une chose qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Par rapport aux auditeurs, ma proposition est la suivante. Lorsque le ministre dit qu'il faudra à chaque niveau une prise en charge correcte, ça veut dire que lui, à son niveau, quand il édicte des normes, il prend un arrêté. Sur le terrain, on trouve les parents qui sont là pour veiller à ce que l'arrêté soit appliqué. Mais lorsqu'il y a des difficultés, il faudra que les parents puissent saisir les autorités. Je ne pense pas qu'on ait deux ou trois ministères suffisamment représentés à travers le pays comme le PSP. Le ministre est représenté à tout le niveau, au niveau des sous-divisions, au niveau de la direction provinciale. Tout est mis en place pour que la décentralisation soit correcte et que les parents soient constamment gérés en collaboration avec les ministères. Donc, il faudra que le parent ait la culture de dénoncer avec précision et quitte au ministre de prendre ses responsabilités pour sanctionner. Au ministre, moi, je dirais ceci. Je pense qu'il faudra relancer l'idée de pouvoir mettre...
On ne pourra pas continuer avec vous, honorable, parce qu'on n'a plus assez de temps. L'État peut-être d'accorder juste une minute aussi à monsieur le ministre pour la conclusion. Alors, monsieur le ministre, Bakir Mangou, vous êtes avec nous.
Merci beaucoup. Je tiens à dire merci à notre honorable Arthur Cédéa. Je voulais juste pour clôturer votre émission dire que rendez-vous est pris pour le 8 septembre. Amenons nos enfants à l'école. L'école sera ouverte pour recevoir les enfants. Et nous constatons généralement que certains parents hésitent. Et pour ça, nous leur demandons eux-mêmes, au lieu d'hésiter, qu'ils prennent parfois des dispositions afin que la veille ou l'avant-veille, ils aillent quand même voir où va étudier l'enfant, s'il y a à nettoyer, mettre un peu d'ordre, parce que l'enfant va dans le prolongement même de leur propre maison étudier quelque part. Donc, nous demandons aux parents de faire un geste pour aller vers l'école bien avant la rentrée, pour voir comment se situe quand même la salubrité, les infrastructures, là où les enfants vont.
Bakir Mangou, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, merci d'avoir été notre invité. Voilà, merci à vous tous qui avez suivi ce débat. Merci également à Jean-Noël Mokondo qui a assuré sa mise en onde. Julie César Bongonda et Thierry Lameji ont réalisé ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. À très bientôt pour un autre numéro.